Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi sur www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire, chaque lundi 19h-20h30. On a un invité qui est très sage, qui a tout bien écouté pendant qu'on était là, donc c'est Laurent Cardona. Dans quelques instants, Laurent, on va commencer à te poser des questions et c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bon, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, ça fait on a en gros le plaisir de partager avec toi une émission par an et c'est ce jour. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je vous présente donc mes acolytes et fidèles lieutenants de Culture Sport. Dédé, bonsoir Dédé, comment vas-tu?
Salut Didier, salut à tous, salut Laurent. Eh bien, écoute, ça va, les conditions climatiques sont excellentes actuellement. Donc, tout va bien.
Christian, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de l'avoir pu te rendre disponible.
Pas de souci, je suis là.
Bon, parfait. Laurent, on va parler de sport bien entendu, mais en première partie, on souhaiterait que tu nous fasses un panégyrique de tes activités professionnelles, nous dire comment ça se passe pour toi.
Ben écoute, ça va, la nouvelle activité Giebro Nutrition fonctionne plutôt très très bien, les magasins de Angoulême. Bègles et Mérignac sont en plein essor, notamment depuis qu'on a enlevé les masques, très clairement, les salles de sport ont pris un rebond énorme et nous, revendeurs de compléments alimentaires et de nutrition alimentaire pour sportifs, forcément, on suit le mouvement. Donc, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'idées, beaucoup de choses en tête, mais ça a toujours été moi, donc pas de souci.
Comment t'es venue l'idée avec ton frère de monter cette société?
Ben, Giebro Nutrition rentre dans un marché qui n'existe quasiment pas en France, la revente de compléments alimentaires et la nutrition sportive. Hein. Aujourd'hui, de plus en plus de sportifs évoluent en France, c'est les chiffres qui parlent, c'est entre 6 et 9% de personnes licenciées dans un club ou dans une salle de sport. Alors même si on est en retard par rapport à nos voisins européens très proches, et le complément alimentaire se distribue très très mal en France, encore une fois contrairement à ce qui se passe chez nos voisins européens où ils sont largement en avance par rapport à nous. Donc Jonathan, mon frère, directeur de salle de sport depuis plus de 10 ans, il dirigeait 3 salles de sport dans le sud de la France à hauteur de Fréjus-Saint-Raphaël. Moi, arbitre de haut niveau et sportif de haut niveau, je pense qu'on avait les deux critères tout à fait réunis pour pouvoir se lancer dans cette aventure dans un marché de niche encore une fois.
Comment se passe le business plan? Est-ce que c'est des points, tu as parlé de points de vente donc qui sont ouverts, ou est-ce que vous avez aussi une boutique en ligne?
Alors on a les deux. On a pas voulu, on nous a dit pourquoi vous faites pas qu'un site internet. C'était pas une mauvaise idée puisque site internet permet de réduire les coûts au maximum, hein, les frais de locaux, les frais de personnel, enfin on peut réduire tout au max. Mais c'était pas notre idée du tout. Je pense que le complément alimentaire, la nutrition sportive sont mal compris ou en tout cas sont mal expliqués ou ne sont pas expliqués du tout d'ailleurs. Et le conseil reste quelque chose de très très important. C'est pour ça qu'on, dans chaque magasin, on s'entoure de professionnels du sport qui sont diplômés. C'est vraiment des gens diplômés. Et donc, vous retrouvez chez nous des conseils, donc à Angoulême, Bègles et Mérignac pour l'instant, puisqu'on est, Giebro Nutrition continue son développement et va s'ouvrir dans d'autres villes d'ici peu. Mais, bien évidemment, le site internet, pour ceux qui n'ont pas accès, à nos boutiques en direct, et bien évidemment disponible pour livrer partout en France, mais aussi à l'étranger, puisqu'on a un contingent de militaires, par exemple, qui sont en base en Afrique ou dans d'autres pays, qui commandent chez Giebro Nutrition, et nous livrons directement sur les bases, les camps militaires.
Quand tu parles de salle de sport, ça concerne l'activité, toutes les activités qui sont qui se jouent sur... que ce soit le hand, le basket, tout ça, ou la gym, le renforcement musculaire.
Bien sûr, ouais, Giebro Nutrition s'adresse à vraiment l'ensemble des sportifs, n'est pas adressé uniquement à la musculation ou n'est pas sectorisé. Là, on a tous les trails, les foulées d'Angoulême qui arrivent, tout ce qui se passe en Angoulême et en Charente en général. Et pendant, juste avant le dernier trail, il y a 15 jours là, d'Angoulême, on a vu défiler toute la semaine des coureurs qui ont des objectifs différents, des objectifs de performance, ou d'autres ont des coup de mou autour du cinquième kilomètre, ou d'autres veulent savoir ce qu'ils peuvent mettre au-delà de leur, de l'eau dans la gourde. Il faut d'autres éléments naturels. Et donc, on complète cette boisson. Voilà, on a des barres énergétiques. Enfin, vraiment, on a eu un défilé toute la semaine de coureurs. On a bien évidemment l'aviron, on a les handballeurs, handballeuses, footballeurs, footballeuses, et vraiment tous les sports qui viennent nous rendre visite. On n'est pas du tout sectorisé sur un seul sport. Et le complément alimentaire est valable pour tous les sports.
Ouais, est-ce que la prochaine étape pour vous, finalement, c'est de créer des partenariats avec les clubs charentais ou girondins?
C'est déjà en cours. Mmh. C'est déjà en cours. Quasiment, on va dire, 95% des salles de sport sont en partenariat avec JL Pro Nutrition. Mais quand je dis salles de sport, je ne parle pas que de salles de sport classiques. Je vais parler de CrossFit. Oui. La CrossFit est énormément dans l'air des temps. Beaucoup de gens, parce que c'est vrai que c'est un sport très complet, le CrossFit. Ouvert à tout niveau. On a des partenariats avec clubs de foot, clubs de rugby, forcément, clubs de hand. Mais voilà, on n'a pas encore tout le monde. On n'a pas eu le temps de voir tout le monde. Tout le monde n'a pas eu le temps de venir nous voir. Mais en tout cas, oui, tous les clubs de sport qui écoutent forcément cette radio, ou en tout cas les pratiquants, sont les bienvenus chez JL Pro Nutrition. Et on a des formes de partenariat qui existent pour chacune de ces entités-là.
Et puis tu parlais du trail angoumoisin, du trail urbain d'Angoulême. Là, c'est vrai que la semaine prochaine, il y a les foulées dans les foulées angoumoisines de 10 km organisées par G2A. J'imagine que tu vas être sur, enfin, ta société va être sur la brèche avec tous les coureurs qui vont être au départ.
Ouais, tout à fait. Alors, on ne sera pas directement présent sur l'événement parce qu'aujourd'hui, on n'est pas structuré suffisamment humainement, on va dire, pour pouvoir se démultiplier dans plusieurs sites en même temps. Donc, on ne pourra pas y être humainement. Mais en tout cas, on sait que on va encore une fois accueillir énormément de monde en magasin. Ces personnes vont venir nous voir pour savoir, eh bien, pendant la course, ce qu'ils peuvent prendre, à quel kilomètre, etc., etc. Parce que chacun a des problématiques différentes. Il peut y avoir l'âge, il peut y avoir la morphologie, il peut y avoir tout un tas de choses qui rentrent en compte. Et nous, on intervient là-dessus. Alors, deux questions.
Cette activité, elle a été créée en quelle année?
Alors, on a créé JL Pro Nutrition Angoulême, a vu le jour en octobre 2020, le 1er octobre 2020. Donc, c'était le lancement rue de la Corderie. On est situé au 35 rue de la Corderie. On est inloupable normalement, parce qu'on est juste en bas du rond-point de l'Éperon, pour ceux qui connaissent bien Angoulême. Donc, 2020.
Est-ce que la gamme de vos produits, Laurent, a une connotation bio?
Alors, on a une partie de notre gamme qui est bio. Faut pas se leurrer, on n'arrivera pas à faire 100% de notre gamme bio. Déjà, on a ouvert la gamme végan, parce qu'on a beaucoup de sportifs. Généralement, le sportif, alors pas que les sportifs bien évidemment, mais en tout cas le sportif a souvent une connotation de ou son équilibre alimentaire, ou en tout cas, il fait énormément attention à la provenance du produit, comment il a été fabriqué. Le végan rentre en compte, la protéine végane existe, donc on n'a pas que de la protéine animale. Et le bio, c'est une très bonne question, on est en train de s'orienter vers le bio. Alors, une partie de notre gamme deviendra bio dans les semaines, mois à venir, parce que c'est une demande forte. Et encore une fois, les sportifs en général font très attention à ce qu'ils consomment.
Tu disais en définition que justement le marché de ces produits et surtout son développement et sa distribution était un peu en plein développement en France. Comment tu expliques justement ce retard par rapport aux concurrents anglo-saxons ou les
espagnols,
voisins d'à côté,
belges ou allemands?
Est-ce que c'est une question simplement de législation? Parce que, alors, je prends peut-être un très mauvais exemple, mais je suis pas expert, loin de là. Il y avait des rugbymen sud-africains qui venaient jouer en France et qui prenaient par exemple de la créatine, des choses comme ça. C'est peut-être un très mauvais exemple, voilà. Mais et du coup, c'était des choses qui étaient autorisées chez eux, mais pas en France. Est-ce que c'est en partie dû à ça? Enfin,
si on prend l'exemple de la créatine est un élément, un complément que l'on vend en magasin, mais aux normes françaises. Pas aux normes internationales. C'est-à-dire qu'en France, les normes sont très cadrées et certains produits qui peuvent se vendre dans des pays étrangers ne se vendent pas en France puisqu'ils ne respectent pas les normes françaises. Le complément alimentaire, de notre point de vue, il y a une vingtaine d'années, souffrait encore de compléments alimentaires et d'égal dopage. C'est comme ça, il ne faut pas se le cacher. Ça a été comme ça il y a 20 ans. On parlait de créatine, on a eu parlé, le vélo a souffert de ce dopage, etc., etc. Et du coup, ça a laissé une empreinte néfaste du complément alimentaire auprès des Français. Bien évidemment, chez Girbro Nutrition, qui est une boutique avec pignon sur rue, avec de grandes façades, aucun complément alimentaire n'est interdit à la vente en France. Voilà. Je veux dire, tout est normé européen, et du coup, ça nous permet de rééduquer, en tout cas, de faire comprendre à nos utilisateurs que le complément alimentaire en lui-même est tout à fait normal dans la consommation d'un sportif, peu importe son niveau. D'ailleurs, on n'est pas obligé de faire du sport à très haut niveau pour pouvoir consommer du complément alimentaire. Et je pense que cette image-là qui a fait reculer un petit peu, ou qui n'a pas permis au complément alimentaire de se développer, alors que, encore une fois, dans tous nos pays, dans tous les pays européens voisins, ça ne pose aucun problème de consommer du complément alimentaire à partir du moment où on respecte les normes. C'est comme tout aliment, hein, dans l'excès, on n'est pas bon.
Est-ce qu'il y a des clubs de cyclisme qui t'a contacté?
On a des clubs de cyclisme.
Y aurait-il des clubs de cyclisme?
Oui. Mais oui, ils nous ont contactés, sachant que tous nos produits sont normés antidopage. Tous. C'est-à-dire qu'on peut consommer ce qu'on veut chez nous. Il n'y a aucun moment où on passera pas sur un contrôle antidopage.
Ça, c'est une bonne chose, parce que des fois, il y a des mauvaises surprises avec des pommades ou des choses comme ça.
Oui, bien sûr. Mais c'est des produits, encore une fois. L'avantage d'acheter chez Girbro Nutrition, quand on est un sportif de haut niveau français, c'est qu'on est sûr de ce qu'on est en train de consommer. Le désavantage d'acheter à l'étranger, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on consomme. Et on ne connaît pas la composition du produit. Et certains de sportifs de haut niveau ou de sportifs normaux qui ont subi des contrôles antidopage se sont retrouvés dopés alors qu'ils pensaient utiliser un produit qui ne contenait absolument rien de dopant. C'est comme ça.
Ces produits sont fabriqués où? C'est vous qui les fabriquez? Vous êtes...
Aujourd'hui, on est revendeur, donc on utilise des marques françaises, des marques européennes qui sont fabriquées soit en Belgique, soit en Espagne.
D'accord.
On a du bulgare, mais la Biotech, qui est une marque bulgare, a 35 ans d'existence. C'est une marque ultra reconnue dans le monde du complément alimentaire. Et on voyage avec eux totalement, totale confiance. De toute façon, tout ce qui est rentré chez nous est analysé et passe les normes européennes pour pouvoir être vendu chez Girbro Nutrition.
Donc, les perspectives, quelles sont-elles, Laurent, à terme? Donc, combien de points de vente tu comptes ouvrir d'ici la fin de l'année, ou est-ce que vous avez un business plan sur les 2 ou 3 ans à venir?
Oui, on a un business plan sur les années à venir. Avant la fin 2022, deux nouveaux magasins verront le jour, deux nouveaux Girbro Nutrition verront le jour, un à La Rochelle et un à Poitiers. Et ensuite, après ces deux magasins, courant 2023, deux nouveaux magasins verront le jour qui seront à Tours et à Bayonne. Alors, je dis Bayonne, mais c'est plutôt le BAB, hein, donc le Bayonne Anglaise Biarritz. Dans le secteur de Bayonne Anglaise Biarritz, on n'a pas encore décidé la ville, mais c'est des projets sur 2023, donc on a encore le temps de revenir. On va d'abord s'occuper de La Rochelle et Poitiers, à ouvrir avant fin 2022. Voilà, donc il nous reste encore 4 magasins à ouvrir. Et puis, suivant comment ça se passe, en tout cas l'image financière qui sera posée à la fin de ces 6 nouvelles boutiques, il y a un gros plan de développement qui est encore prévu chez Girbro Nutrition et qui court jusqu'à 2032.
Dans le sens où vous êtes basé sur Angoulême et donc à Bordeaux, donc forcément des villes avec des populations différentes en nombre, et puis surtout j'imagine que vos clients sur Angoulême et vos clients à Mérignac et Bordeaux ont pas forcément le même profil un peu comment tu décryptes un peu finalement le type de clientèle finalement. Est-ce que finalement c'est les mêmes, ou est-ce qu'on retrouve des besoins ou des choses différentes?
C'est pas la même clientèle. C'est pas tout à fait la même clientèle. Disons que dans la gamme de produits, c'est la même gamme de produits à Angoulême, à Bordeaux, à Mérignac et à Bègles. On n'a pas de diversification de la gamme ou un produit, mais on va dire que la variation des produits. On a certains produits qui se vendent beaucoup plus à Angoulême, d'autres qui vont se vendre moins à Bordeaux. Voilà, c'est vraiment une typologie de clientèle un petit peu différente. Là où on est surpris, c'est qu'à dans les grandes villes, donc à Bordeaux, il y a beaucoup de, c'est disons que dans la composition du produit, etc. Il y a beaucoup de questions très 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 précises, mais sur des tout petits trucs, des toutes petites lignes avec 0,1 mg de telle ou telle substance. Et il y a beaucoup de questions là-dessus. Alors qu'à Angoulême, un petit peu moins, mais bon, voilà, c'est pas très grave puisque nous, on connaît la composition de nos produits, donc ça nous va bien.
Et quand vous avez débuté, vous aviez un commercial pour justement faire pour démarcher un petit peu vos produits.
Les managers de nos enseignes ont pour mission d'aller chercher les clubs de sport, les salles de sport et tout organisme qui peuvent être intéressés par le complément alimentaire et la revente. Et donc je vois à Mérignac, on a un partenariat avec le gros club de foot sur place, avec les handballeuses qui évoluent en première division. Voilà, on a quand même pas mal de partenariats de haut niveau, et le manager a pour mission, puisqu'ils sont deux salariés par enseigne, donc un manager et un vendeur ou une vendeuse, hein, parce que c'était souvent mix, parce qu'on aime bien la mixité dans nos magasins, puisque une femme qui va rentrer chez GL Bro Nutrition aura plus de facilité à s'adresser à une autre femme pour parler de ces questions de perdre du poids ou des choses comme ça, parce que on a aussi dans le complément alimentaire du brûleur de graisse, du draineur d'eau, des vitamines et tout ces compléments qui sont pas forcément destinés aux femmes, mais pour lesquels les femmes ont plus de facilité à parler à une autre femme plutôt qu'à un homme qui va avoir des gros bras, etc., etc. Donc c'est différent. C'est totalement différent.
C'est un effectif de combien aujourd'hui que vous comptez?
Chez Bro Nutrition, y compris avec la maison mère, c'est 8 salariés. Donc 2 par magasin, plus la maison mère où on a de l'administratif et des gens qui travaillent dans la communication, qui travaillent dans le développement, dans la comptabilité, enfin tout ce qui est la partie, on va dire, invisible du système, quoi, qui ne concerne pas les clients. Voilà, c'est la maison mère. Parce que acheter un produit, c'est bien, mais savoir pourquoi je l'achète et pourquoi je le consomme et quand est-ce que je le consomme, c'est quand même beaucoup mieux.
Oui, parce que quand on parle de compléments alimentaires, forcément, on parle de produits qui sont pris pendant l'effort, mais il y a aussi les produits, tout ce qui est un peu de récupération, j'imagine aussi.
Sûr. Bien sûr, le complément alimentaire ne se prend pas que pendant l'effort. Il se prend avant, en anticipation, et il se prend après pour la récupération. Donc, c'est vraiment un cycle, ça fait partie du régime alimentaire. Quand je dis régime, je ne parle pas de perte de poids, hein, je parle d'un régime alimentaire, d'une façon de consommer, ça rentre complètement dans l'alimentation. C'est vraiment ça vient au quotidien.
Et d'ailleurs, je vais vers la transition parfaite pour ton activité, enfin pour parler, pour continuer l'émission. Mais c'est vrai que toi, tu es arbitre de rugby de haut niveau depuis longtemps. Quel rapport finalement tu as eu finalement avec ces compléments alimentaires? J'imagine que ça s'est développé au fil des années. Comment tu vois un peu cette historique-là te concernant?
Le complément alimentaire est rentré dans mon entraînement, dans ma préparation physique il y a 5-6 ans maintenant, parce que les semaines sont longues. Tu l'as dit, hein, moi je suis arbitre semi-professionnel, c'est-à-dire que je partage mon temps entre l'arbitrage et mes activités professionnelles qui sont conséquentes. La fatigue se met en route puisque je m'entraîne tous les jours, soit en salle de musculation, soit sur les terrains, plus les matchs le week-end. Donc ça fait beaucoup, hein. Le corps dépense énormément d'énergie pour accumuler tout ça. Et après, une fois que j'ai fini de m'entraîner, j'ai mes journées de travail qui consomment aussi beaucoup d'énergie. Et à un moment donné, on arrive à saturation parce que on est fatigué, on se lève le matin, même si on dort bien, on est fatigué de la veille, etc., etc. Et le complément alimentaire vient supplémenter l'alimentation classique. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour récupérer autant que ce que je dépense en termes de consommation calorique et en termes d'énergie, l'alimentation classique ne suffit pas. On n'arrive pas à recharger les batteries. Hein. Le corps est une batterie. comme une voiture électrique aujourd'hui, on met la prise, c'est la même chose. Et ce corps-là a besoin d'être rechargé par des éléments qui lui permettent d'être rechargé un peu plus vite que ce que pourrait permettre la physiologie classique du corps ou la composition de nos aliments, aussi sains soient-ils qu'on consomme. Donc le complément vient accélérer ou aider en tout cas la récupération. Et puis je te cache pas que plus tu prends de l'âge, puisque j'ai quand même 44 ans, et moins le corps récupère.
Plus vite. Dur de récupérer.
Normal. C'est parti, nos cellules, c'est comme ça. Et bien là, le complément m'a vraiment aidé. Et pour un rugbyman comme mon frère, qui joue à Barbezieux, lui, il va plus axer son complément alimentaire sur le traumatisme que peut créer un match de rugby, les douleurs articulaires, et tout ce qui peut l'aider à mieux récupérer. Ou en tout cas, à 37 ans, quand il a fait 80 minutes de match de rugby de Fédéral 2, ben, vous imaginez bien qu'il est un peu mâché quand même le lundi. Et plutôt que de récupérer en 4 jours, ben, il essaye de récupérer en 2 jours, ce qui lui permet de reprendre ses charges d'entraînement plus rapidement.
Oui, ça permet à la fois de mieux récupérer, mais aussi de conserver sa charge de travail actuelle au lieu de la réduire.
Exactement.
D'autant plus que tu as deux activités. Il y a celle-ci donc, que tu viens de créer avec ton frère, et puis tu as débuté par la création notamment d'une agence immobilière qui s'est développée.
Bien ça.
Et tu en es où, Laurent, puisqu'il n'y avait plus moyen? Est-ce que ça s'est développé à travers le département et peut-être dans la Nouvelle-Aquitaine?
Alors, je vais vous donner l'histoire, très rapide. Je ne vais pas trop prendre de temps là-dessus. Habitea, je l'ai créé il y a 3 ans maintenant, où j'ai créé mon agence à plus moyen.
Oui.
Ensuite, un an plus tard, puisqu'elle a eu 2 ans cette année, j'ai créé l'agence de Sainte, toujours sous l'enseigne Habitea, donc une deuxième agence immobilière. Puis, en novembre 2022, donc là, on a créé une troisième agence à Auxerre-sur-Drône, qui est une très charmante petite commune assez envahie par nos amis britanniques, belges, flamands, etc. Donc voilà, et on a recruté 2 personnes, donc un Anglais pur qui s'appelle Neil Potter et qui est vraiment un personnage absolument gentil et extraordinaire professionnellement parlant et humainement.
L'oncle d'Harry.
Je vous l'ai déjà fait la blague. Comme c'est un anglais, je suis pas sûr qu'il ait très bien compris ou que ça l'ait pas fait rire tout à fait. Et il est venu se confronter quand même à mon activité chez Gilles Brault Nutrition et l'arbitrage, une vingtaine de collaborateurs, c'est ce que représente Habitea, devenait très compliqué à gérer, puisque à un moment donné, les journées ne font que 24 heures. Un peu dormir de temps en temps et avoir une vie de famille à peu près normale, on va dire.
Bien sûr.
Donc, j'en ai pas trop parlé encore et je vais vous en parler un peu en exclusivité. Donc, j'ai décidé de vendre l'ensemble d'Habitea que j'ai vendu. La session s'est faite fin décembre 2021. Donc, on est en mars. C'est vrai que j'ai pas trop discuté encore dans la presse. Bon, quand on me posait la question, j'en parlais pas trop, mais là, maintenant, je peux en parler assez librement. Donc il fallait que je me reconcentre à tout prix que mon énergie, en plus de l'arbitrage, passe dans Gilles Brault Nutrition, parce que je vous ai parlé du développement il y a quelques minutes, et vous imaginez bien que ce développement-là va me prend déjà énormément de temps et d'énergie, et a besoin de toute mon attention. Parce que les dossiers, chaque magasin qui s'ouvre, c'est un dossier lourd. Les locaux, là je suis en plein dans les dossiers sécurité de l'enseigne de Mérignac, et c'est pas un petit dossier, donc je ne pouvais pas comme ça cumuler les activités, donc il a fallu que je prenne des décisions, et donc je me suis séparé d'Habitea fin décembre 2021. Donc voilà, donc les 3 agences immobilières que j'ai créées ont été cédées à des gens très bien et qui continuent l'activité avec grand plaisir.
On va parler un petit peu de terrain également, Laurent, puisque je dirais malheureusement t'arrives au terme de l'âge où malheureusement tu vas donc quitter le terrain.
Ouais. Eh ben écoute, j'ai fait il y a pas très longtemps mon 150e match de Top 14. Tout donner sur la dernière saison, c'était vraiment un objectif. Je voulais pas du tout finir ma saison comme un type qui finit quelque chose et qui est un peu en dilettante ou qui utilise son expérience à outrance pour faire passer des choses. Pas du tout. Donc,
le rugby,
des bons souvenirs, des moins bons souvenirs, mais finalement, les moins bons souvenirs restent de bons souvenirs malgré tout.
C'est là où on apprend peut-être le plus.
Ah, toujours. C'est toujours dans l'échec qu'on apprend le plus vite. C'est que quand tout nous réussit, on comprend pas comment ça nous réussit. C'est quand on se trompe ou qu'on tombe. Généralement, quand on remonte vite à cheval, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite que quand tout nous réussit.
Est-ce que tu as l'intention de continuer l'arbitrage, soit t'occuper d'un club ou de au niveau de la Fédé, est-ce qu'il y a des choses en vue?
Le dossier professionnel, bah, vous l'avez compris, c'est ma priorité, bah, JL Bro Nutrition, puisque c'est l'entreprise qu'on a créée avec mon frère. Et c'est l'entreprise familiale qui me tient à cœur, donc ça va être vraiment ma priorité. On va dire que tout le reste deviendra forcément sur le plan secondaire. Tout le reste professionnel, je parle. Donc, j'ai pas de proposition concrète à la fédération. En même temps, la fédération, elle recycle mal ses arbitres. Faut être tout à fait clair, hein. Elle a pas de plan de carrière, la fédération, pour tous les arbitres qui s'arrêtent. C'est pour ça que le semi-professionnalisme est très intéressant pour les arbitres, puisque ça leur permet de garder un pied dans le monde professionnel. Et ça, c'est
bien
très
sûr,
bien.
Bien sûr.
Ce qui m'a permis de créer JL Bro Nutrition, ce qui m'a permis de créer Habitea, etc., etc. Cette double casquette. Donc, j'ai pas de plan de savoir ce que je ferai dans le monde du rugby.
Est-ce que les arbitres vidéo sont touchés par la limite d'âge aussi, Laurent?
Ils sont touchés, oui. Je veux pas dire de conneries, je crois que c'est 55 ans, mais je ne fais que croire que c'est 55 ans. Je crois que les arbitres de touche sont aussi touchés par la limite d'âge. Et il me semble que c'est 50 ans, mais j'ai peur de dire des bêtises sur les limites d'âge. Mais je crois que c'est ça.
Ça veut dire qu'on peut être arbitre vidéo sans ne plus arbitrer sur le champ.
Tout à fait.
Voilà.
Je pensais que du coup, tous les arbitres vidéo étaient arbitres de champ.
On a les deux.
D'accord.
On a les deux. C'est souvent des anciens arbitres nationaux et internationaux qui deviennent arbitres vidéo.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 90.7, mais aussi www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports, le lundi 19h-20h30. Nous retrouvons notre invité, Laurent Cardona, aux mains de Dédé et Christian.
Est-ce qu'il y a des critères ou des points qui sont attribués en fonction du match que vous avez donc arbitré ou vous aviez la responsabilité pour essayer dans le top 14? Je pense qu'il y a des critères à respecter.
On est 16 arbitres en top 14, 16 arbitres de champ qui peuvent arbitrer au milieu. Alors on dit que ça peut faire beaucoup parce qu'il n'y a que 7 matchs par week-end, mais 7 au centre, 7 qui sont potentiellement à la touche, parce qu'ils essayent de mettre des arbitres de touche de top 14 au cas où le collègue du milieu ait un problème. Et puis après, 2 entre guillemets en réserve. Ça ne fait pas beaucoup finalement, parce que quand les matchs internationaux rentrent en jeu, comme le tournoi des 6 nations, que tu as 3, 4, 5 arbitres qui s'en vont à l'international, ça veut dire que c'est plus 16, c'est 11. Donc, ça peut aller assez vite. Donc, ça, c'est pour la première question. La deuxième question, est-ce qu'on est supervisé à chaque match? Oui, l'arbitre, le corps arbitral, sur chaque match, c'est valable au foot, hein, est noté, supervisé par des gens, souvent des anciens arbitres, qui viennent, qui ont une grille de notation et qui donnent leur avis sur l'arbitrage. Si ce compartiment-là a bien été géré, celui-ci est moins bien, et la communication avec les joueurs, comment ça s'est passé, voilà, tout un tas de critères et de points qui créent une note ou une appréciation plus qu'une note à chaque match et qui créent au final un classement.
Un classement entre les arbitres. Oui.
Bien sûr.
Et puis après, j'imagine qu'il y a un système de relégation. Les moins bons de top 14 sont relégués en Pro D2 et les meilleurs de Pro D2 sont en top 14.
Bien sûr, oui, tout à fait. Il y a des relégations chaque année. Des fois, il n'y en a pas. Il y a des relégations. Ou en tout cas, c'est des arbitres qui rentrent dans un groupe intermédiaire top 14 Pro D2. Ouais, après, c'est pas publiquement mis. On ne jette pas nos arbitres en pâture sur la place publique. Parce qu'on a suffisamment de gens qui nous décrit déjà pour en plus jeter des noms sur la place publique. Donc ça, on le fait pas. Ça reste en interne, mais ça se passe bien comme ça, effectivement.
Est-ce que du fait qu'il y a un classement entre les arbitres, il y a une petite notion de concurrence entre vous?
Bien sûr, on est des compétiteurs. Les arbitres sont des compétiteurs. C'est pour ça qu'ils s'entraînent énormément. C'est pour ça qu'ils essayent d'être le plus performant chaque week-end. C'est des compétiteurs entre eux. On veut tous avoir le meilleur match. On veut tous avoir l'affiche numéro 1 du week-end. C'est notre objectif. On n'arrive pas sur un match, je ne donnerai pas de nom d'équipe pour n'offenser personne et n'encenser personne. Mais bien sûr, on veut être tous sur l'affiche du samedi soir 21h ou le samedi à 15h en prime time sur Canal+. On veut tous faire la finale de top 14. Voilà, on veut tous faire les meilleurs matchs. Donc forcément, on rentre en compétition. Alors même si le groupe d'arbitres, notamment au rugby, et je pense qu'au foot c'est le même cas, vit bien entre eux, quand on est ensemble et réunis, on vit super bien ensemble. Mais après, quand les désignations tombent, ou quand il faut être le meilleur sur le terrain, ben on essaye d'être le meilleur sur le terrain pour avoir les meilleurs matchs, comme un joueur.
Tu connais le classement, tu connais ton classement, toi, à chaque fois, non? Est-ce qu'il est réactualisé à chaque match?
Il est réactualisé globalement tous les 6 mois, donc mais il est encore une fois, il est pas diffusé spécialement aux arbitres, il reste en interne au comité de sélection. D'accord. Et voilà, eux ils savent clairement qui est très bien en ce moment, qui est moins bien, etc. Et puis ça peut tourner comme ça assez régulièrement, suivant les notes, suivant les rapports, suivant des choses. Alors on peut nous reprocher que ce soit assez sombre, mais je vois pas du tout l'intérêt de rendre ça public.
Ça doit rester dans le
voilà, hormis les contestataires des arbitres habituels, hein, qui aiment se faire plaisir, ou trouver un bon coupable. Donc, non, faut que ça reste en interne. On aime laver le linge sale en famille.
Toi et tes collègues sont désignés 10 jours avant un match officiel. Comment tu t'organises, puisqu'en plus vous êtes des semi-professionnels? Je suppose que ça demande aussi une organisation familiale et également une organisation pour notamment se déplacer, pour retrouver les arbitres de touche, où vous êtes pas, c'est pas un trio ponctuel, enfin c'est ponctuel, c'est tout ponctuel chez vous.
Oui, tout à fait, les arbitres de rugby. Alors généralement, on regarde quels sont les. Alors déjà. Chez nous, on n'est pas comme au foot, si on compare avec nos collègues du foot, on n'a pas de quatuor.
Oui, il n'y a pas d'arbitre de centre. Il n'y a pas de trio fixe.
Non, pas au rugby. La compétence est égale à la polyvalence au rugby. C'est-à-dire que aujourd'hui je suis arbitre de centre, demain je peux me retrouver arbitre de touche, le surlendemain vidéo, avec un collègue qui vient me faire la touche, et puis le week-end suivant c'est moi qui vais lui faire la touche, etc. Et ça tourne comme ça en permanence. Chez nous, c'est compétence égale polyvalence. C'est-à-dire que on considère, et je suis totalement partisan de ça, que en n'ayant pas qu'une seule vue du terrain, c'est-à-dire en ayant fait tous les postes possible, arbitre de centre, arbitre de touche, arbitre vidéo, ça nous permet de voir l'ensemble de la fonction d'arbitre. Et ça, c'est super important, parce que quand je suis juge de touche ou arbitre vidéo, je sais ce qu'attend mon collègue du centre. Je sais ce qu'il attend, parce que le week-end d'avant, j'étais à sa place. Et le week-end suivant, je serai peut-être à sa place. Donc, ça nous crée une vraie compétence, une homogénéité dans nos fonctions. Ça, c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, quand on est désigné, on regarde la liste des collègues et on s'organise entre nous. Alors qu'on n'a pas d'obligation. Je crois qu'au foot, ils sont obligés d'arriver 24 heures avant, me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises, et repartir le lendemain. Nous, on n'a pas ces obligations-là. Si on veut arriver la veille, on peut. On est rémunéré par la fédération. Enfin, en tout cas, on est remboursé par la fédération pour ça. Mais si je vais à Bordeaux, arbitrer, j'ai pas envie d'arriver la veille. Si le match il est à 21h le samedi, ça m'intéresse absolument pas d'arriver le vendredi. Bordeaux, c'est 1h15 de chez moi, je vois pas pourquoi j'irai 1h la veille. Si je vais à La Rochelle, c'est un peu la même chose. Si je vais à Montpellier, c'est le cas est différent. Mais là, je regarde où sont mes collègues. S'ils sont sur ma route, je leur propose d'aller avec eux, de les récupérer ou ils me récupèrent. Sinon, généralement, on se rejoint à l'hôtel le jour du match. Environ 3 heures avant, on fait un petit débrief, on boit le café ensemble, on partage un moment ensemble. Mais la préparation du match ne se fait pas là. Elle se fait dans la semaine, ou quand l'arbitre de centre a vu les différentes situations, ou en tout cas a ressorti certains clips qui peuvent être intéressants, appelle ses collègues, ou on fait des visios, on se fait une petite visio ensemble, tac, 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 on sort quelques clips qui nous intéressent, sur lesquels on va mettre le focus. Et tout ce travail-là, il est fait dans la semaine. Il n'est pas fait le jour du match, parce que le jour du match, généralement, c'est trop tard.
Laurent, à propos des arbitres, tout à l'heure, tu parlais de la mixité dans ton travail. Il y a une femme qui arbitre donc en Pro D2, c'est Aurélie Groiselot, je crois.
Aurélie Groiselot, une charentaise.
Ah bon, en plus, ça, je ne savais pas. Donc, très bien. Qu'est-ce que tu penses de l'accession des femmes au milieu du monde semi-professionnel, en tout cas des arbitres?
trouve que c'est top. Alors, je reconnais que la tâche est difficile pour elle. C'est pas une question de compétence, c'est encore une question de vue ou d'a priori. Voilà, alors qu'Aurélie, en gros des deux, est totalement compétente dans son travail. Et qu'elle ne pose aucun problème et qu'il n'y a pas de remarques spécifiques. Et je pense que Stéphanie Frappa, puisqu'on prend un exemple féminin, est aussi un exemple dans l'arbitrage au foot. Et je trouve ça absolument génial. Je pense que l'ascension des femmes dans le rugby, au niveau de l'arbitrage, suivra la courbe de la montée en puissance du rugby féminin. Parce que le rugby féminin, on monte en puissance. La Coupe du Monde va être diffusée sur une chaîne publique. C'est quand même génial. Et je pense que l'arbitrage, plus on aura de femmes qui joueront au rugby, forcément le nombre fera qu'on aura de plus en plus de femmes qui arbitreront. Ça fait, c'est mathématique. Et dans ce cadre-là, c'est la montée en puissance. Et moi, j'ai hâte de voir une arbitre féminine en top 14 assez rapidement, je le souhaite.
Est-ce que tu penses qu'elle est en posture de pouvoir y accéder, Laurent ?
Je pense qu'elle est en posture de pouvoir accéder au top 14, en Bolivie, bien sûr.
D'accord.
Vraiment. Je pense que si elle continue comme ça, il faut savoir qu'elle a quand même un niveau international de très bon niveau. Hein. Elle est désignée régulièrement au tournoi des Six Nations.
Pour les U20, c'est ça ?
Sur les U20, donc elle a fait des U20 masculins cette fois-ci. Donc, ça veut dire que ses compétences sont reconnues au niveau international. Donc si ses compétences sont reconnues au niveau international, elles le seront forcément en top 14. Mais je sais que la volonté de Franck Massiello, le patron des arbitres, et de son comité de sélection, est de faire grimper Aurélie Groiselot. Mais l'argument féminin ne suffit pas. Il y a les compétences aussi qui rentrent en jeu. Et donc, c'est ces compétences qui seront prises en compte pour la faire monter en top 14. Et je vous dis encore une fois, si elle continue comme ça, elle pourra tout à fait y accéder.
Les choses ont quand même beaucoup changé dans le rugby, qui est un sport, on va dire, qui a une connotation très, très traditionnelle. On voit quand même que ça change quand même le rugby, non ?
Oui, énormément. Le rugby s'est ouvert à tous. Faut pas se cacher, il y a 20, 25 ans, quand il y avait un match de rugby à la télé, on va dire que 9 fois sur 10, ça finissait en bagarre et en gestes pas très jolis à voir. Que forcément ça décourageait les mamans ou les mamans et les papas qui avaient envie de mettre leurs enfants dans un sport de combat collectif. Faut être honnête, hein, faut pas se le cacher. Aujourd'hui le rugby est un sport qui s'est assaini en termes de d'images violentes, on va dire. Il y a toujours de gros plaquages, il y a toujours des gestes assez impressionnants, physiquement assez impressionnants, parce que c'est un sport de combat collectif, le rugby, et ça, on pourra pas y changer grand-chose. Mais la violence gratuite, ou la violence qui n'était pas tolérable sur un terrain de rugby, elle a disparu. Et aujourd'hui, donc du coup, ça permet aux parents qui souhaitent mettre leurs enfants, alors je dis les mamans, parce que c'est souvent les mamans qui protègent beaucoup plus leurs enfants que les pères. Moi, je vois, j'ai pas de mal à mettre mes enfants, quand ils étaient petits, à les mettre au rugby, alors que leur maman, elle, a plus de mal à les mettre au rugby, parce que se voir faire rentrer dedans à son fils ou à sa fille, c'est un peu compliqué. C'est normal, hein. Normalement, elle est très protectrice. Et aujourd'hui, il y a moins ce frein, puisque les images à la télé sont quand même beaucoup plus rassurantes. Et quand on voit, et puis tu as dit que ça avait évolué, quand on voit l'équipe de France évoluer à la télé aujourd'hui, on a envie que ces enfants deviennent aussi ces garçons-là.
Oui, et puis il y a moins de, moi je regarde le rugby aussi à la télé, hein, il y a beaucoup moins de cinéma, enfin, et en plus, vous avez cet avantage entre, quand vous sifflez une faute, vous avez l'avantage d'appeler les joueurs, de leur expliquer ce qu'ils ont fait, et ils se séparent, et de temps en temps, évidemment, ils se font la gueule, mais ils se séparent, et puis après c'est terminé, le match se reprend. Ouais. Non, mais clairement, football, où on va, pas comme au football, où on va tomber pour obtenir une faute, quoi. Là, c'est complètement différent, le rugby.
Ouais, non, mais ça c'est clair qu'il y a la genèse de nos sports est totalement différente.
Il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau du rugby.
Il y a alors c'est toujours quand on parle d'arbitrage et on nous compare souvent avec le foot reste un sport mondialement reconnu et jouable, reste le sport numéro un mondial et je vois pas un seul sport dans le monde détrôner un jour le foot. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont une masse de joueurs et de joueuses très, 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 très importante. Je sais pas ce que c'est en termes de licenciés. Hein. Je n'ai pas en tête licenciés, mais je crois que la Fédération française de football est peut-être 10 fois plus de licenciés que la Fédération française de rugby.
C'est la première.
Voilà, c'est la première et ça restera comme ça encore pendant 100 ans, hein, sans aucun problème. Donc, forcément, plus t'as de masse, et plus tu as du mal à contrôler ta masse. Ce qui veut dire que ça fait rentrer des gens.
2 millions licenciés environ.
Voilà, 2 millions, et la Fédération française de rugby, tu dois certainement l'avoir sur ton téléphone, là, si tu peux nous le dire, si je dis pas de bêtises. Donc c'est compliqué. Donc oui, je crois que des fois, il y a des messages qui passent pas très très bien dans les écoles de foot. Moi, je le vois, les comportements, si je suis autour d'un match de foot de jeunes, le comportement de certains parents est totalement alarmant. Je pense que tout le monde voit Zinedine Zidane dans leurs enfants, ou Mbappé, ou Griezmann. Et ça crée des comportements et des fois des trucs incroyables. Quand j'ai vu encore un truc sur un match de foot en Charente qui a complètement dégénéré avec un arbitre tout jeune au milieu, je trouve ça totalement.
Et oui, c'est pas pour encourager. C'est vrai que c'est pas pour encourager les arbitres. Hein. On le voit au niveau du département. Je crois qu'au niveau du département, il y en a même pas. Il y en a même pas en première division, pratiquement pas d'arbitres.
J'ai pu être arbitre de rugby parce que j'ai commencé chez les jeunes, comme tout le monde. Comme tout
le rugby, c'est 280 000 licenciés. Voilà, pour répondre aux questions.
J'ai dit un peu plus, j'étais pas très loin. Donc, j'étais pas très loin. Il me semblait bien que j'avais cette stat en tête. Donc, j'ai pu être arbitre de foot de haut niveau. J'aurais pas toléré d'être arbitre de foot. J'ai pu être arbitre de rugby de haut niveau. Oui, j'aurais pas toléré d'être arbitre de foot de haut niveau ou de niveau tout court, parce que pour y arriver, c'est tellement dur. C'est difficile, quoi. Je veux dire, je les comprends, mes collègues de foot, aller arbitrer des mecs nuls sur un terrain qui ont le niveau de, je sais pas combien vous avez de divisions là, 150 millions, qui sont nuls de chez nuls, qui vont même pas à l'entraînement la semaine, et qui viennent le dimanche faire les plus beaux, etc., etc., et s'en prendre à l'arbitre en lui reprochant d'être nul. Non, mais ça, je rêve, quoi. Enfin, ça me tue, quoi. Je veux dire, comment on peut dire un mec qu'il est nul quand on est soi-même le plus nul du monde? C'est incroyable. Mais moi, j'ai toujours appris qu'un joueur, moins il court, plus il parle. Donc, s'il parle, c'est qu'il court pas. Faut être clair. S'il a du souffle pour parler, c'est qu'il court pas beaucoup. Et l'image renvoyée par le monde professionnel n'est pas bonne. Clairement, elle est pas bonne. Les plus grandes stars se permettent des choses incroyables auprès du corps arbitral. Donc, comment veux-tu que cette image détestable ne soit pas répercuté chez nos jeunes? C'est pas possible. Donc s'ils ne résolvent pas le problème en haut, ils ne résoudront pas le problème en bas. C'est clair. Et les instances ont l'air de s'en foutre royalement, en plus. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur dans le football. Et tout le monde s'en fout. D'ailleurs, faites ceci, faites cela, mettez des cartons jaunes, tu parles. Personne va mettre un carton jaune ridicule parce que le mec, il est venu râler parce qu'il est pas content. Moi, quand je regarde un match de foot, je comprends pas grand chose, hein. Bon, parce que ça m'intéresse pas spécialement. Mais quand je rends un match de foot, le mec, il fait une faute qui existe, il lui a pris le pied, etc. Et ben, il vient râler quand même. C'est attribué d'une mauvaise foi absolument incroyable. Et en plus, c'est une mauvaise foi. Tu fais la faute, t'es pris. Ok, merci, je fais la faute, je m'en vais. Salut. Mais là, non, je fais la faute. Elle est claire. Et je viens râler pour dire que j'ai pas fait faute.
Très juste.
Il y a quand même, Laurent, que
tu prendrais deux dispositions rapides. La première, carton jaune, exclu 10 minutes. Tu joues à 10 pendant 10 minutes. Ça va décharger la responsabilité de l'arbitre. Pourquoi? Parce que pendant 10 minutes, tu vas sortir, tu vas laisser ton équipe à 10. C'est tes collègues et ton entraîneur qui vont t'en vouloir. Alors que là, toutes les sanctions, elles sont individuelles. Quand je prends un carton jaune, c'est moi qui le prends. Individuellement, il n'y a aucun impact quasiment sur le groupe. Alors que si tu sors 10 minutes, il y a un impact sur le groupe directement. Merci. Et là, c'est tes collègues qui vont te dire « Arrête tout, machin, tu nous pénalises, etc. etc. » Deuxième disposition…
C'est là qu'ils perdent un match.
Je précise juste que l'exclusion…
C'est là qu'ils perdent un match, justement, t'as raison.
Bon, deuxième disposition.
Juste que le carton blanc existe au niveau régional en foot. Hein. Tu peux te faire exclure pendant 10 minutes.
Bah, très bien. C'est une excellente disposition. Deuxième disposition, coup franc. Je râle. 10 mètres de plus.
Comment vous dites?
Et un coup franc à 50 mètres, et un coup franc à 40 mètres, et un coup franc à 30 mètres, c'est pas tout à fait le même coup franc.
Pareil.
Avant de râler. Quand j'aurai Messi en face de moi qui va taper lui qui est à 40 mètres, et si je viens râler, il va être à 30 mètres, crois-moi que je vais moins râler.
C'est clair, c'est clair.
Il y a quand, ah, il y a quand même ça, c'est bien résumé.
Il y a quand même
bien résumé. En place, hein. Si on veut, on met en dans, comme ça, un amendement, bim bam boum, tac tac tac, et tout le monde va dire bravo. Tout le monde va dire bravo.
Il y a qu'en Angleterre, Laurent, où, pour suivre les matchs de la première ligue, il y a qu'en Angleterre où, franchement, son arbitre est respecté. Dans la mesure où, on voit rarement des joueurs, faire du cinéma, on voit rarement des joueurs, contester un carton quand ils le prennent. Donc ça, c'est dans les gènes du football anglais, ça. Et c'est un exemple à suivre. Mais en revanche, le regard que tu portes sur le foot en France, et quelque chose est une excellente analyse, Laurent. Il n'y a pas de souci avec ça.
Hein. Ah oui, là-dessus, il n'y a pas photo. Hein.
Et c'est dommage parce que.
Il n'y a pas photo et tu n'auras pas le carton rouge, Laurent.
Parce que c'est dommage parce que le foot est vraiment un vecteur social très important. Le sport en général est un réunificateur de classe sociale, de couche sociale. C'est vraiment quelque chose de très important, le sport. On nous a privé pendant des mois, à cause de la pandémie, de sport. Mais les gens, sont devenus fous, quoi. On nous a privé à la télé. Alors, ils ont pu garder le monde professionnel. On arrive à avoir du foot, etc., etc., du rugby et d'autres sports, mais pas beaucoup, finalement. Le chat était maigre en termes de sport. Putain, mais là, aujourd'hui, les gens peuvent aller jouer au rugby, jouer au foot, jouer au hand, faire du vélo. Enfin, tout le monde respire, quoi. On sent les gens moins stressés, moins angoissés. Enfin, on voyait bien que les cabinets de psychologie explosaient, parce que les gens explosaient chez eux. Et le foot, qui est un sport mondial, est un vecteur, est un réunificateur de classe sociale. Il faut le garder.
Mais c'est un lien social.
C'est à tout, quoi.
Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un lien social. Et quelle que soit la catégorie, quelle que soit la personne, ça unit les gens sur une activité. Et on regarde pas la couleur, on ne regarde pas comment il est habillé. C'est un lien social. Et ça, dans toutes les communes, toutes les associations, ça débute comme ça. C'est un lien social. Et
dans un stade de foot, de rugby, peu importe le stade, tu as toutes les catégories sociales qui sont présentes. Toutes, de l'employé classique du premier niveau au cadre supérieur d'entreprise de dirigeant qui peut diriger des centaines de millions d'euros, dans le même stade, tu as toutes ces personnes. Tu viens à Chanzy, SA15, tu rentres au stade. Quand je regarde le panel de gens dans la tribune, grande tribune ou la tribune supérieure, peu importe, eh bien, il y a toutes les couches sociales d'Angoulême. Toutes. Et ça, c'est génial. Et il n'y a que le sport qui te fait ça. Parce que tu vas au théâtre. Alors, il y a des couches sociales aussi, mais c'est moins flagrant. Tu vas dans d'autres domaines, c'est moins flagrant.
Et je voudrais conclure, parce que je vais être obligé de vous quitter, parce que là, je suis également président d'association, pour dire qu'il y en a même qui économisent pour aller voir un match.
Bien sûr. C'est leur sortie.
Voilà.
C'est leur sortie de la semaine. Et
Laurent, je te souhaite longue vie, Laurent, puis continue à nous faire... tu nous feras plus rêver sur le terrain de rugby, mais dans la vie professionnelle, je suis convaincu que tu réussiras comme tu as réussi dans le top 14.
Ça roule, avec plaisir.
Laurent, pour revenir au rugby, ça fait 12 ans, je crois, que tu arbitres, c'est ça ?
Oui.
Est-ce que les choses ont changé dans les... Alors d'abord, il y a les règles qui ont changé au rugby, ça... C'est vrai, mais dans le rapport que tu as avec les joueurs, qu'est-ce qui a changé, Laurent ? Si toutefois il y a quelque chose qui a changé depuis 12 ans ?
Il n'y a pas de changement de règle au rugby. Il y a une évolution de la règle. C'est idiot peut-être ce que je vais dire, Didier, mais c'est juste, je le précise, parce qu'on a l'impression que chaque année on change les règles du rugby. Non, on ne change pas les règles du rugby. Les fondamentaux sont toujours bien présents. On fait toujours des passes en arrière et on doit toujours ne pas être hors jeu. Mais il y a des améliorations, qui permettent, le rugby a pour ambition de s'ouvrir au plus grand nombre. Pour s'ouvrir au plus grand nombre, il faut que le jeu soit de plus en plus clair. Et ce qu'on a beaucoup reproché au rugby d'il y a 20 ans, c'est qu'on avait l'impression, un peu comme au football américain, que toutes les 15 secondes, il y avait un arrêt. Et pour gommer ça, pour fluidifier ça, il a fallu modifier quelques aspects de la règle. Donc ça a beaucoup évolué depuis que j'ai commencé à arbitrer, effectivement. Et je pense qu'on y arrive. Tu vois, la mêlée dure de moins en moins de temps, même si des fois on arrive quand même à tomber sur 3-4 mêlées d'affilée, ça agace tout le monde, mais avant c'était tout le temps comme ça. Avant, chaque mêlée, elle se passait en 3 ou 4 fois. Il n'y avait pas une qui sortait normalement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. De temps en temps, on a 3-4 mêlées. Donc, il y a ce premier truc. Moi, mon approche par rapport à l'arbitrage, déjà au niveau du respect des joueurs, on va dire que le respect a toujours été là. Certains détracteurs de notre sport disent « Ouais, rugby, machin, ça va pas, les gens parlent de plus en plus, les joueurs parlent de plus en plus », mais c'est juste parce que nous, on a un micro depuis des années et que le micro, on les entend et ils râlent pas plus qu'il y a 10 ans, 20 ans, voilà. Il y a pas plus de contestation. Ça, c'est sûr et certain. Mon expérience, bien évidemment, je suis pas le même arbitre qu'en 2010, bien évidemment, où j'étais plutôt froid. En 2010, quand j'ai débuté, j'étais froid, renfermé, assez sec, trop sec. Voilà, j'avais pas cet aspect arrondissant, on va dire.
C'est normal, Laurent, dans la mesure où tu étais jeune dans le métier et que t'avais pas d'expérience sur la compétition, mais en fait, tu ne pouvais asseoir ton autorité que sur le respect des règles.
Exactement. C'est, moi, souvent, on me dit, ouais, cet arbitre-là, qui est un jeune arbitre de top 14, j'ai plusieurs exemples comme ça, ouais, machin, on peut pas lui parler. Je sais pas qu'on peut pas lui parler, c'est que il est jeune dans la profession et il se protège, il se met cette bulle autour de lui qui lui permet de diriger son match, de faire ce qu'il faut pour, ouais, mais voilà, c'est normal, tout jeune arbitre qui débute dans ce milieu-là ne peut pas être aussi à l'aise qu'un arbitre, ça fait 10 ans qu'il fait ce métier-là. C'est impossible.
On arrive tout doucement au terme de notre émission. Laurent, le temps passe très très vite avec toi. C'est franchement génial de t'avoir avec nous, d'avoir toujours ton sourire sur ton visage. À l'heure où on va se dire au revoir, d'abord, est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée ou quelque chose sur laquelle tu souhaiterais revenir?
Moi, j'ai une dernière question pour Laurent.
Vas-y, mon grand.
La ultima pregunta. Alors là, je fais référence à un match du SA15 que tu as vu cette année. Donc, c'était le match entre le SA15 et Massy. Tu vois directement où je veux en venir. Donc, tu as commenté ce match avec Eric Pio au micro de Charentip. Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience? Est-ce que potentiellement, tu parlais tout à l'heure de propositions qui ne se refusent pas. Est-ce que potentiellement, un Laurent Cardona, consultant même à la géographie charentaise, ça pourrait être une possibilité?
Moi, écoute, c'est quelque chose qui me plaît bien. Quand je travaillais avec vous, avec Didier pour Culture Sport, quand j'étais consultant pour vous, ça me plaisait beaucoup. C'est plus une question de temps qui m'a obligé à arrêter, on va dire. Mais ouais, ça me plaît beaucoup. J'aime bien cet aspect. Ouais. Ouais, ça peut partir des choses qui peuvent m'intéresser. Bon, là, je le fais très ponctuellement. Parce que Eric Fillot, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, me l'a demandé. Et voilà, bon, très clairement, il n'y a rien. Enfin, je le fais par plaisir. Je vous le dis tout de suite, il n'y a rien à gagner là-dedans. La Charente Libre fait avec les moyens qu'elle peut. Mais ça me fait énormément plaisir de partager ce moment-là. Et puis, et je trouve que ça donne vraiment un regard totalement différent. Quoi. Encore une fois, c'est encore un regard différent parce que moi, en tant qu'arbitre en activité, je n'ai pas spécialement envie de critiquer mes collègues, notamment en direct. Je le fais pas déjà en temps normal, donc je vois pas pourquoi je le ferai en direct. Et puis arriver à analyser c'est un jeu qui est pas super simple quand tu fais ça. Mais j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup cette expérience. C'est original, je trouve.
Merci franchement d'avoir accepté de notre invitation. On a passé un super moment. Moi, je suis un petit peu ému parce que c'est vrai, c'est quand même. T'es une figure du sport, t'es quelqu'un d'humainement très riche, ça c'est vrai, c'est important Laurent, parce que c'est là-dessus qu'on fonde les vraies valeurs de notre société. En tout cas, moi ce que je peux te dire une chose, c'est qu'on va te suivre, et dans toutes les bonnes choses qui vont se passer par ailleurs après. Donc, et on s'interdit pas d'aller te faire un petit coucou pour que tu reviennes d'ici quelques mois à l'antenne pour pouvoir nous parler de ton émission chez JBN.
Mais avec grand plaisir. Ce sera toujours avec grand plaisir, Didier, tu le sais.
Oui, merci Laurent. Merci beaucoup. Donc, plein de bonnes choses. À très bientôt. Allez, le SA15. D'accord?
Salut.
À bientôt, Laurent. Merci. Au revoir, Christian. Merci à toi.
Attitude.
Attitude. Attitude.